Le journal de la rédaction par Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Florian, bonjour à tous. Nous vous la souhaitons sur France Culture, belle, légère et pleine de découvertes. Emmanuel Macron a lui promis aux Français une année 2019 placée sous l'ordre républicain. Il a promis de continuer ses réformes. Lors de ses vœux aux Français, hier soir, le président a raillé la foule haineuse et les mensonges. Vous l'entendrez avec les réactions politiques dans la foulée.
Et puis nous ferons le point ensuite justement sur l'agenda économique et social de cette année 2019, de la réforme de l'assurance chômage à celle des retraites. Les gilets jaunes et les syndicats pourraient de nouveau vouloir se faire entendre.
Dans cette édition encore, nous irons à la frontière entre le Pérou et l'Équateur. Des migrants vénézuéliens y ont passé le réveillon du Nouvel An hier soir. Ils sont moins nombreux qu'il y a encore quelques semaines.
Et puis au Brésil, le président élu, Jair Bolsonaro, sera investi dans quelques heures. Notre envoyé spécial a rencontré la population indigène dans le pays, inquiète des décisions qu'il pourrait prendre. Son reportage à suivre.
Et puis Kim Jong-un pourrait envisager une nouvelle voie face aux demandes américaines si elles persistent. Le dirigeant nord-coréen l'a dit lors de ses vœux cette nuit. Après ce journal, Frédéric Saïs, dans son billet politique, analysera avec son invité les relations entre la France et l'Italie à l'aube de cette nouvelle année.
6, 5, 4, 3, 2, 1, go New Horizons! Go New Horizons!
Un décompte, non pas pour passer en 2019, mais pour placer en quelque sorte cette nouvelle année sous le signe de la conquête spatiale.
Go New Horizons!
Allez, nouvel horizon, du nom de la sonde spatiale envoyée par la NASA, c'était en 2015, envoyée vers l'objet céleste le plus éloigné de la Terre jamais observé, 3 ans et demi après. La voilà à près de 6,5 milliards de kilomètres de notre planète, soit 17 000 fois la distance entre la Terre et la Lune. Au petit matin tout à l'heure, cette sonde a survolé Ultima Thule. C'est une relique glacée datant du début de notre système solaire. Alors il faut encore attendre ces images qui arriveront sur Terre d'ici une dizaine d'heures et être certain que cette sonde n'a pas été détruite. Mais déjà, ce survol est historique. Et il promet une année riche en émotions. Voilà ce que souligne l'astrophysicien, chercheur au CNRS et membre de l'Académie des sciences ce matin, François Forget.
Il va y avoir beaucoup de belles aventures dans l'exploration spatiale cette année, à commencer par cette nuit, le survol d'un objet extrêmement lointain, le plus lointain jamais exploré, qui s'appelle Ultima Thule, aux confins du système solaire, la mission New Horizons, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé à l'époque où elle a survolé Pluton, en 2015. Derrière ça, on va récupérer des informations d'un peu partout, autour de Jupiter, de Vénus, et même, c'est une année aussi, on va beaucoup apprendre sur les planètes autour des autres étoiles. Vous savez, ça, c'est une révolution qui est en cours. Non seulement on a le système solaire à explorer, mais maintenant, on a littéralement des milliards d'autres systèmes à découvrir. Et c'est quelque chose qui vraiment va prendre de l'ampleur cette année.
L'astrophysicien François Forget au micro de Laetitia Gaillet. Soulignons que le premier pas de l'homme sur la Lune date de 1969. Nous sommes en 2019. C'était il y a 50 ans. Une éternité, diront certains. Demanderait-il la Lune? Lors des traditionnels vœux du président aux Français, Emmanuel Macron hier soir a formulé 3 requêtes. Vérité, dignité, espoir. Lors d'un gros quart d'heure, il a dit entendre la colère qui vient de loin en France, mais il entend aussi garder le cap, fustigeant les porte-voix de la foule haineuse, ce sont ses mots, et promettant l'ordre républicain dans le pays. Cette colère, dit Emmanuel Macron, faisant référence sans le nommer au mouvement des Gilets jaunes, cette colère a surtout montré que nous ne sommes pas résignés, selon le président de la République. Emmanuel Macron a toutefois indiqué que les réformes allaient se poursuivre, réforme des retraites, de la fonction publique, de l'assurance chômage. Il a répondu également à ceux qui voudraient voir l'État dépenser plus.
On ne bâtit rien sur des mensonges ou des ambiguïtés. Or, je dois bien dire que depuis des années, nous nous sommes installés dans un déni parfois flagrant de réalité. On ne peut pas travailler moins, gagner plus, baisser nos impôts et accroître nos dépenses, ne rien changer à nos habitudes et respirer un air plus pur. Non, il faut tout de même sur ces sujets que nous nous regardions tels que nous sommes et que nous acceptions en face les réalités. Nous vivons dans l'une des plus grandes économies du monde. Nos infrastructures sont parmi les meilleures au monde. On ne paye pas, ou presque, la scolarité de nos enfants. On se soigne à un coût parmi les plus faibles des pays développés pour avoir accès à des médecins d'excellence. Nous dépensons en fonctionnement et en investissement pour notre sphère publique plus que la moitié de ce que nous produisons chaque année. Alors, cessons de nous déconsidérer ou de faire croire que la France serait un pays où les solidarités n'existent pas où il faudrait dépenser toujours davantage. Nous pouvons faire mieux. Et nous devons faire mieux.
Voilà qui réaffirme le cap des réformes voulues par le chef de l'État qui est resté debout pendant sa prise de parole. Le message se voulait subliminal, il se dit au travail, s'engage d'ailleurs à écrire ces prochains jours aux Français pour dresser les contours du grand débat national qu'il a annoncé. Ce qui satisfait sans surprise le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini.
Je crois qu'il a parlé de sujets concrets, il a parlé de santé, il a parlé de fracture numérique, il a parlé aussi du quotidien des Français, de ce qui avait avancé en 2018, mais il ne fallait pas attendre du président de la République qui donne les conclusions de ce grand débat, ce moment où chaque Français pourra s'exprimer avant qu'il n'ait lieu. Et donc je crois que c'était aussi le sens de cet exercice que sont les vœux présidentiels, de donner un cadre, de projeter le pays vers son avenir, et pas forcément d'en tirer toutes les conclusions micro, si je puis dire.
Un avenir qui ne convainc pas toutefois l'opposition, et notamment le chef de file du Parti Socialiste, Olivier Faure, joint par Steven Goyer.
On a un président qui nous a quand même répété que la politique qu'il conduisait était la bonne et qu'il n'était pas question de changer de cap. Or, ce que précisément 8 Français sur 10 lui ont dit depuis quelques semaines, c'est que sur la question notamment sociale, fiscale, il fallait changer de cap. Il se limite à nous répéter ce qu'il avait déjà prévu d'annoncer, quelles que soient les circonstances, c'est-à-dire une réforme de l'assurance chômage, une réforme des retraites, une réforme de la fonction publique, qui ne sont pas précisément ce que les Français attendent. Il nous dit « je nous appelle à plus de solidarité », mais en même temps il nous explique que nous consommons finalement trop aujourd'hui et qu'il va falloir faire avec moins. Je n'ai pas trouvé ce président à la hauteur du moment que nous traversons.
Hier soir, le scepticisme était le même au parti Les Républicains. La porte-parole Laurence Saillez indique avoir vu un président récitant un texte sans émotion, sans conviction. Un président des riches qui a fait son rideau de fumée, fustige de son côté le patron de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Quant au Rassemblement national, Marine Le Pen voit, elle, un Emmanuel Macron en imposteur. Hier aussi, dans la foulée de ses vœux présidentiels et après des semaines de tensions et de violences, à Paris, les Champs-Élysées étaient en fête. Au moins 300 000 personnes se sont retrouvées sous haute surveillance pour fêter le passage à la nouvelle année. Seuls 200 gilets jaunes avaient fait le déplacement dans le calme. Aucun incident majeur n'a été signalé sur tout le territoire français. Alors nous venons de l'entendre, Emmanuel Macron voit en 2019 l'accomplissement de ses promesses faites en 2018, l'achèvement de ses réformes, ce qui pourrait, même si la soirée d'hier a été calme, renforcer la colère sociale en ce début d'année, Catherine Pétillon.
Les dossiers sociaux épineux ne vont pas se faire attendre et les concessions récentes faites par le gouvernement pourraient aiguiser les appétits. Dépassés, voire contournés par la mobilisation des gilets jaunes, les syndicats ne s'en trouvent pas moins ragaillardis. Ils se sont d'ailleurs engouffrés dans la brèche et demandent par exemple pour les fonctionnaires une prime, voire à FO et à la CGT une augmentation du point d'indice et donc des salaires. À cela s'ajoutent les mobilisations dans le secteur de la santé ou autour de Parcoursup. L'ouverture de la plateforme en janvier pourrait relancer la fronde. Et c'est dans ce contexte qu'arrivent un certain nombre de réformes déjà annoncées par l'exécutif. La prochaine, c'est celle de l'assurance chômage et les 3 à 3,9 milliards d'économies d'ici 2022 demandées par le gouvernement dans le cadre de la négociation de la nouvelle convention. Les discussions sont d'ores et déjà très tendues. Reste à savoir quels efforts l'exécutif continuera à demander aux chômeurs après l'épisode gilets jaunes. En tout cas, les partenaires sociaux ont officiellement demandé à reporter d'un mois au 22 février la date butoir pour finir les négociations. Matignon réserve ses réponses au mois de janvier. Autre dossier explosif, la réforme des retraites. Les discussions ont été mises en pause durant la mobilisation des gilets jaunes. Les réunions de concertation avec les partenaires sociaux reprendront en janvier.
Et déjà en ce 1er janvier, voici les traditionnels changements de début d'année. Parmi les mesures attendues, citons plus 10% pour le tarif du timbre poste, plus 1,54% pour le salaire minimum dans le pays. Le minimum vieillesse augmente lui de 35 euros par mois. Les heures supplémentaires sont maintenant défiscalisées et désocialisées. Et puis, c'est une autre des conséquences du mouvement des gilets jaunes. Il n'y a pas en ce début d'année d'augmentation des tarifs du gaz, de l'électricité et des taxes sur le carburant.
8h09, la suite du journal avec vous, Clara Lecoq-Réal, et la planète à cette heure-ci qui est passée en 2019. Pour ce passage à la nouvelle année, nous avons choisi d'aller aux côtés de migrants vénézuéliens.
Ah oui, ils sont 2 à 3 millions à avoir fui leur pays sous le feu de la crise économique ces derniers mois. Certains remontent vers le nord du continent, d'autres fuient vers les pays voisins et se retrouvent notamment à la frontière entre le Pérou et l'Équateur. Notre correspondant Éric Sanson en revient tout juste.
Au beau milieu de la zone semi-désertique et poussiéreuse qui sépare l'équateur du Pérou, le centre binational d'attention frontalière est étrangement calme à quelques minutes du jour de l'an. On est loin de la cohue des derniers mois, confirme l'agent migratoire Alex Heras.
Pour la fin d'année, il y a beaucoup moins de migrants vénézuéliens cherchant à rentrer au Pérou. Apparemment, beaucoup sont restés au pays avec la famille pour les fêtes. En ce moment, on a de 500 à 600 par jour, pas plus. Mais en novembre et jusqu'à Noël, on recevait de 2000 à 3000 vénézuéliens tous les jours.
Allongé sur un matelas prêté, Doul ses voyages en bus depuis 6 jours avec ses filles et une nièce. Ses papiers sont en règle, mais elle ne veut pas quitter le centre frontière de nuit. De toute façon, à cette heure tardive, il n'y a plus de bus pour Tumbes. Elle se prépare à un jour de l'an plutôt maussade.
Nous, on va dormir maintenant. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est triste quand on est loin de la famille et de sa ville. Heureusement que mes trois filles voyagent avec moi parce que mes fils sont au Pérou. Ma mère en Colombie, mes frères et sœurs, mes neveux et ma grand-mère sont toujours au Venezuela.
Dulce partira demain pour Trujillo où l'attendent ses deux fils partis en éclaireur il y a un an. Elle espère que son jour de l'an 2019 sera porteur de plus d'espérance.
Éric Sanson à la frontière entre le Pérou et l'Équateur. Des migrants vénézuéliens, nous l'avons suivi, nous l'avons couvert en 2018. Ces migrants dont l'exode a soulevé de grandes questions migratoires sur tout le continent américain. Eh bien, l'un des pays voisins, le Brésil, ferme peu à peu ses portes à ces migrants depuis l'élection de Jair Bolsonaro à la présidence. Le chef de file de l'extrême droite sera investi aujourd'hui en fin d'après-midi. Il avait séduit en octobre lors de l'élection présidentielle 55% des Brésiliens, leur promettant d'endiguer corruption, violence et crise économique, affichant aussi sans complexe sa nostalgie des années de plomb de la dictature militaire. Au Brésil, la communauté indigène, notamment en ce moment, craint pour ses terres, Olivier Poujade.
Au pied des grandes tours, leurs baraques de bois et de briques rouges sont encore protégées par la forêt et par les décisions de justice encore respectées par l'ancien gouvernement. Irène n'est pas certaine qu'elle continue de l'être avec Jair Bolsonaro.
J'ai très peur. J'ai vraiment peur. Il ne m'inspire pas confiance.
Les dernières déclarations du nouveau président, qui a déjà prévenu qu'il ne céderait pas un millimètre de terre indigène en plus, n'inspirent rien de bon à Edson.
Ce qu'il veut, c'est nous envoyer dans les villes pour mieux exploiter nos terres. Il veut tuer la forêt, en finir avec les natifs. Pourquoi ? Planter du soja, élever des poulets. Pour qu'un pays soit puissant, on n'a pas besoin de s'attaquer aux arbres.
Jair Bolsonaro projette de remettre en question les démarcations des territoires indigènes pour en extraire les ressources minières. Le nouveau président a aussi choisi de retirer du ministère de la Justice la Fondation Nationale de l'Indien. Cette institution n'aura désormais plus le même poids dans les nombreux conflits qui l'opposent au lobby de l'agrobusiness, des soutiens sur lesquels Bolsonaro compte s'appuyer au Congrès.
C'était un reportage d'Olivier Poujade, accompagné par Gilles Gallinaro à Brasilia pour France Culture. Nous les retrouverons tout au long de la journée lors des journaux d'information. Et puis demain matin pour commenter l'investiture de Jair Bolsonaro au Brésil. Trois personnes ont été blessées au couteau hier soir en Angleterre, à Manchester, dans la gare ferroviaire de Victoria. L'agresseur a été interpellé et placé en garde à vue. La police antiterroriste a été chargée de cette enquête. On apprend aussi ce matin au Japon que 8 personnes ont été blessées dans le centre de Tokyo, après qu'une voiture a foncé sur la foule lors des festivités du Nouvel An. Un homme âgé d'une vingtaine d'années a été arrêté. Il pourrait s'agir d'un acte terroriste, selon les autorités japonaises. Il se dit prêt à rencontrer une nouvelle fois Donald Trump. Lors de la présentation de ses vœux pour l'année 2019, le Nord-Coréen Kim Jong-un affirme être toujours aussi déterminé à œuvrer à la dénucléarisation de la péninsule coréenne, mais à condition que les États-Unis prennent des mesures correspondantes. Voilà ce que dit le dirigeant. Verbatim de ses vœux, signé Frédéric Ojardias depuis Séoul ce matin.
Kim Jong-un a lu son discours dans une bibliothèque, assis dans un lourd fauteuil de cuir, avec derrière lui les portraits de son père et de son grand-père, ses prédécesseurs à la tête du régime. Son allocution a été diffusée en direct par les télévisions en Corée du Sud, ce qui est nouveau et ce qui est un signe de plus du rapprochement intercoréen. Le dirigeant nordiste a d'abord promis de mettre fin aux pénuries d'électricité et d'améliorer les conditions de vie de sa population. Il s'est ensuite engagé à renforcer la défense nationale. Si Kim Jong-un affirme toujours vouloir dénucléariser la péninsule coréenne, il exige en échange des mesures correspondantes de la part des États-Unis. Le maître de Pyongyang menace même de chercher de nouveaux moyens de protéger l'intérêt national si jamais Washington ne tenait pas les promesses prises l'année dernière et évaluait mal la patience du peuple nord-coréen, un appel à lever les sanctions qui frappent son régime. Kim Jong-un montre certes sa volonté de poursuivre le dialogue, il se dit même prêt à discuter directement avec Donald Trump à tout moment, mais il ne propose en réalité aucune mesure concrète et ses déclarations ne suffiront pas à elles seules à convaincre les États-Unis et à débloquer des négociations nucléaires dans l'impasse depuis des mois.
Le mois dernier, tout de même, Donald Trump lui avait déclaré qu'un second sommet avec son homologue nord-coréen pourrait avoir lieu en janvier ou en février. On prend les mêmes et on recommence pour l'année 2019. Ce mardi, les nuages vont rester assez compacts sur la moitié nord de la France jusqu'aux plaines de Rhône-Alpes. Sur les Pyrénées, sur les Alpes et sur les régions près de la Méditerranée, le soleil, en revanche, va dominer dès ce matin et compter 3 degrés à Bordeaux, 5 à Grenoble, 5 également à Strasbourg, 8 degrés à Boulogne-sur-Mer, à Paris et à Rennes ce matin, entre 10 et 12 près de la Méditerranée, 2 à 3 degrés de plus cet après-midi.
Merci Clara Lecoq-Réal.